diffusion de ce matin. Encore 2 ou 3 minutes avant qu'on ne commence. Bonjour Immaculée. Bonjour Rachel. Bonjour aux sœurs qui se connectent avec toi habituellement. Donc Mona, Chantal, Ocilia, peut-être Caridad aussi. Donc bienvenue à vous toutes. Bonjour à celles et à ceux qui se connectent via la page internet de l'Église. On ne vous voit pas apparaître, mais on sait que vous êtes là. Donc, parmi ce nombre, je vais en oublier, mais parmi ce nombre, on salue Léandra, on salue la sœur Dora, la sœur Concepcia, on salue Patricia, on salue Gilles, on salue la sœur Manon Tassé, on salue la sœur Lise aussi. Bonjour Myriam. Bonjour Donald aussi. Donc nos fidèles qui sont sur la page internet de l'Église sont effectivement là, puisque j'ai reçu une petite salutation d'une de ces personnes. Wenaning Barka. Cette personne comprendra. Bonjour Babette. Bonjour Denise, Dieu vous bénisse. Donc on va prier pour débuter ce matin, après qu'on va lire le passage qui nous sert de réflexion pour cette semaine. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cet instant que tu nous donnes. Un moment, Seigneur, où nous pouvons plonger nos regards dans ta parole et être abreuvés et nourris par elle. Nous te demandons, Seigneur, de répandre ton esprit sur nous, de nous parler, de nous permettre, Seigneur, d'assimiler tout ce que tu voulais nous enseigner aujourd'hui et que tu as préparé pour nous tous, Seigneur, de toute éternité. J'appelle ta bénédiction, ta grâce, ton assistance sur mon frère, sur ma sœur, qui sont branchés en direct ce matin, mais aussi, Seigneur, sur tous ceux qui écouteront cet enseignement plus tard en journée ou même, Seigneur, à travers les temps qui viennent. Donc, que ton esprit, que ton onction coule à flot à travers nous, que tu nous bénisses, que tu nous instruises, et que tu rassasies notre âme et notre esprit. Nous t'avons prié en sachant que tu entends et que tu réponds aux prières de tes enfants pour ta gloire et ton honneur, Jésus. Amen. Alors, rebonjour à tous. Je vais lire pour vous le passage du jour dans Ésaïe au chapitre 61, le verset 1 et le début du verset 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Je répète le texte. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et la phrase que nous étudions cette semaine, la deuxième dans le verset 1, « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alors que le Seigneur puisse bénir ce temps que nous prenons ensemble et ce temps dans la parole de Dieu. Le mot important aujourd'hui, puisque hier on a étudié le début du verset 2, le début de cette deuxième phrase, car l'Éternel c'était hier, et aujourd'hui on étudie « car l'Éternel m'a oint ». Le terme « oindre » qui est en hébreu, le terme « mashak »,« mashak », « M-A-S-H-A-C-H », je répète pour ceux qui prennent des notes, « M-A-S-H-A-C-H », « mashak », et qu'on retrouve 69 fois dans l'Ancien Testament. Donc c'est un terme qui est utilisé assez régulièrement malgré tout, mais dans des contextes très particuliers. La plupart du temps, dans un contexte de cérémonie, que ce soit lors de l'onction qu'on déverse sur l'établissement d'un sacrificateur ou d'un souverain sacrificateur, donc quand quelqu'un était nommé au service de Dieu à titre de sacrificateur, membre de la famille de Lévi, bien entendu, on répandait sur lui de l'huile en abondance, puisque la Bible nous dit que ça coule sur les cheveux et que ça se répand sur la barbe et sur le bord des vêtements de la personne qui était ointe. Et on pouvait oindre aussi à d'autres offices, dont l'onction royale. Donc quand David va être appointé prophétiquement tout d'abord, donc avant-cours, il va être appointé comme roi à la place de Saül. On se rappelle que Nathan va aller dans la maison d'Isaïe, le père de David, et va répandre aussi le contenu d'une corne remplie d'huile, va répandre cela sur la tête de l'élu, de celui qui a été choisi par Dieu pour être le roi, donc le roi David. Le terme « mashak » dans l'étymologie du terme simplement, ou dans la traduction très littérale de la chose, veut dire « enduire ». On va le voir notamment lorsqu'on va parler de mettre sur la nuit où la dernière plaie tombe sur le pays de l'Égypte et que le peuple d'Israël va être libéré de l'esclavage pour partir. On se rappelle que Dieu va demander au peuple d'Israël de mettre une tache de sang ou une goutte de sang ou une quantité de sang sur le pourtour de la porte de la maison, et que lorsque l'ange de la mort allait passer, celui-ci allait éviter toutes les maisons où il y avait le sang qui avait été aspergé, mais s'abattrait sur toutes les maisons qui ne l'auraient pas, et dans ces maisons, le premier-né mâle mourrait. Effectivement, le terme de « asperger de sang les linteaux de la porte », c'est le même terme « mashak », qui veut dire donc « enduire », qui veut dire « oindre », comme on le dit dans nos traductions beaucoup plus contemporaines, qui veut dire « répandre un liquide ». Donc, on va parler aussi de « mashak » dans certains sacrifices, lorsqu'on va verser du liquide, notamment de l'eau ou encore du vin qu'on va déverser sur une offrande. Et on parle aussi de consacrer. Donc lorsqu'on consacrait un endroit à l'Éternel, lorsqu'on consacrait une personne au service de Dieu ou de la nation, donc on parlait de consacrer. Aujourd'hui, je vais utiliser 5 connotations qui sont liées avec l'onction qui vient de Dieu. 5 facettes de l'onction, de leurs conséquences et de leur justification sur la personne qui est ointe. On s'entend ici, c'est Ésaïe qui parle du Messie ou qui fait parler a priori le Messie. Jésus, lorsqu'il va reprendre ce texte dans Luc au chapitre 4, c'est lui qui parle de lui-même, comme quoi il a été oint. Et on sait que le Christ, le Messie, veut dire effectivement celui qui est oint, celui qui a été choisi. Donc le premier terme qu'on parle aujourd'hui, lorsqu'on dit il m'a oint ou j'ai été oint, on parle d'être choisi. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Dieu nous a choisis. Dieu a mis son choix sur nous. De toute la création, de tout ce que Dieu avait créé, il a voulu avoir un lien tout particulier avec l'homme. Et dans cette diversité que représente le genre humain, chacun d'entre nous avons été choisis. C'est pas je voudrais pas qu'on tombe dans le mécanisme de dire oui, mais c'est parce que Dieu aime tous les hommes, donc parfois, par conséquent, il m'aime aussi. Ça va plus précisément que ça. Dieu t'aime spécifiquement toi pour qui tu es et pour ce à quoi tu es appelé à être ou à devenir. Dieu t'aime et il t'a choisi de façon spécifique pour un travail. Lorsqu'on parlait d'être oint, on parlait effectivement d'être choisi pour une tâche. David a été choisi pour être roi d'Israël et il va devenir le plus grand roi de toute l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque le Seigneur parle à propos de Jérémie, le prophète, un prophète qui, humainement parlant, a peu de succès parce que la Bible l'avertit déjà, le Seigneur l'avertit déjà, comme quoi il va prophétiser, mais que personne ne va l'écouter. Et ça va avoir un tel impact sur la vie de Jérémie que Jérémie va être appelé le prophète pleureur, donc celui qui pleure dans ses prophéties, parce qu'il dit effectivement des choses dures sur la nation d'Israël, sur la suite des choses, et ces choses l'émeuvent au plus haut point, et qui fait en sorte qu'il va se mettre à pleurer. Il va même avoir un livre, au-delà du livre de Jérémie, il va avoir un autre livre qui s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». Mais Dieu va dire à Jérémie, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça veut donc dire que Dieu l'avait déjà choisi de toute éternité pour un mandat qui était clair, qui était précis et qui était prophète des nations. Et ça, ça va pour toi et pour moi aussi. Lorsque nous venons à exister, lorsque nous naissons, nous ne naissons pas avec Dieu qui va improviser quelque chose le jour de notre naissance. Non, ta raison d'être, l'objectif de ta vie a déjà été établi, pensé, réfléchi de toute éternité. Et Dieu t'a choisi pour cette œuvre, Dieu t'a choisi pour l'œuvre de ta vie. Donc tu dois te réjouir que le Dieu créateur de l'univers, à un moment donné, dans cette omnipotence de Dieu qu'on a étudié à travers les derniers jours, Dieu décide qu'effectivement, il te veut et il te veut pour un mandat précis. On est toujours honoré lorsque quelqu'un qu'on juge important vient nous demander de faire quelque chose. Je vous parlerai de mon premier service à l'église. J'étais âgé à l'époque de probablement 7 ou 8 ans, guère plus, lorsque j'ai commencé à servir. Et le service m'a été demandé par le pasteur Fontalvo, qui était donc le pasteur fondateur de l'église, et qui est décédé maintenant, mais qui était donc le pasteur auprès de notre congrégation. Et il est venu m'approcher un jour en demandant, « Florent, est-ce que tu serais intéressé à laver le baptistère ?» Donc, cette espèce de piscine qu'on utilise pour faire les baptêmes dans notre église. Donc, à 7 ou 8 ans, à l'époque, on avait assemblé le dimanche matin et le dimanche soir. Et la plupart du temps, c'était le dimanche soir qu'on faisait les baptêmes. Donc, entre les deux assemblées, lorsque le jour arrivait, j'étais celui qui lavait le baptistère. Et c'est ma première tâche. Mais j'étais tellement heureux, d'une part, parce que Ben, c'était amusant. J'avais une petite piscine pour moi tout seul, donc c'était amusant, oui. Mais de surcroît à cela, j'étais heureux de servir suite à la demande de quelqu'un qui m'était important, que je jugeais comme étant la personne la plus importante qu'on pouvait connaître, nous et moi, en tant qu'enfant, qui était le pasteur Fontalvaux. Donc, j'étais honoré par la demande de service qu'il me faisait. Mais de surcroît à ça, j'étais honoré aussi d'avoir ma petite tâche, si petite soit-elle, qui à mes yeux était tellement importante et tellement grande, qui était de laver le baptistère dans l'église. Donc, ça devrait être pour toi aussi un honneur, une joie de comprendre que le Dieu créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, t'a choisi pour faire une tâche. C'est pas ton voisin, c'est pas ta voisine, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas l'arrière-petit-fils de la grand-mère du roi Henri IV. C'est toi qui l'as choisi pour cette tâche spécifique qu'il a assigné à ta vie. Alors tu peux le voir comme un tordage de bras, et à ce moment-là, tu passes à côté de la bénédiction qui vient avec le fait de servir d'un cœur dévoué et d'un cœur heureux, ou tu peux le voir comme il serait logique de le voir, que ce Dieu créateur qui n'a pas besoin de toi au niveau du service, qui peut faire toute chose sans toi, malgré tout, choisit délibérément de te confier une tâche. Et si aujourd'hui le président de la République t'approchait, si le premier ministre t'approchait, si la reine d'Angleterre t'approchait pour une tâche spécifique, tu percevrais la chose comme un grand honneur. J'espère que tu perçois ce matin l'appel de Dieu dans ta vie comme un grand honneur. Donc, tu es choisi. Premier terme. Deuxièmement, tu es élu. Le terme élu va revenir régulièrement dans la parole de Dieu. On va parler des élus de Dieu. Et élu veut dire que tu as été choisi spécifiquement au milieu d'autres personnes, qu'il y a eu une observation, qu'on a soupesé les uns et les autres, et que pour cette tâche, tu as été choisi. Donc, ce n'est pas simplement que Dieu voulait tout simplement te confier une tâche, mais il a aussi soupesé ce que tu peux faire, ce que tu es apte à faire, ce qu'il sait qui te sied le mieux. Donc, Dieu a choisi comparativement aux autres. Et voilà pourquoi il est mauvais, humainement parlant, de se comparer à nos frères et à nos sœurs. Je sais que c'est une réaction normale, on l'a tous. Je l'ai eu moi-même, je regardais d'autres personnes qui servaient et je disais, mais pourquoi pas moi? Je regardais d'autres gens qui semblaient passer devant moi au niveau temporel, au niveau du temps dans la mise en service et je disais, mais pourquoi pas moi? Parfois, je regardais certains talents que d'autres avaient que je n'avais pas ou qui me semblaient que je n'avais pas et je me disais, mais pourquoi eux ont reçu ceci et moi je ne l'ai pas? Il est très mauvais de se comparer parce qu'en fait, toute comparaison est fausse. Dieu a déjà fait cette comparaison. Dieu a déjà fait ce soupesage, si le terme existe, sinon vous me permettrez de l'utiliser. Dieu a déjà mis chacun d'entre nous sur la balance en disant, voici ce que mon fils est capable de faire comparativement aux autres. Et c'est important que Dieu nous ait élus après avoir soupesé et après être sûr de ce que nous sommes capables de faire. Ça veut donc dire que toute tâche que le Seigneur te confie, que tout mandat que Dieu te confie, tu es capable de le faire. Parce qu'il n'y a pas d'erreur dans le jugement de Dieu. Il n'y a pas une erreur dans la conception que Dieu a de ta vie, de tes capacités et de tes possibilités de performance. Dieu sait, lorsqu'il te confie une tâche, que tu es la personne appropriée dans son plan parfait pour faire la chose. Et lorsque Dieu te demande de faire une chose, ce n'est pas pour te voir échouer, ce n'est pas pour te voir perdre, mais il sait que tu vas faire pleinement et adéquatement la chose. Donc voilà pourquoi il est important de savoir que non seulement on a été choisi, mais on a été élu. Donc Dieu nous a comparés aux autres et il a dit, voici mon fils, je veux l'utiliser spécifiquement dans telle tâche, avec tel mandat, avec telle œuvre. Donc ça nous amène au troisième terme, choisi, élu, tout ça vient dans la pensée de l'onction. Quand Dieu vient choisir quelqu'un et qu'une onction est déversée sur lui, voici ce qui se passe. Donc il est choisi, il est élu et il est mandaté. Un élu politique doit comprendre aussi son mandat. Et la problématique, c'est très régulièrement que l'élu ne sait pas où se limitent ses tâches et ses pouvoirs et le mandat qui lui est donné. Donc aujourd'hui, on doit comprendre aussi que lorsque le Seigneur établit sur nous une onction, lorsqu'il nous choisit et nous élit, de surcroît à cela, le Seigneur aussi mandate. Ça veut donc dire que dans l'Esprit de Dieu, il est déjà établi les pourtours, les limites de l'œuvre à laquelle tu es appelé. Et là encore, voilà pourquoi il est important, un, de ne pas se comparer, parce que ton œuvre devrait venir s'emboîter exactement dans l'œuvre de ton frère et de ta sœur, là où Dieu te positionne. Et de surcroît à ça, c'est que si tu te compares aux autres, tu vas aussi avoir tendance très régulièrement à outrepasser le mandat qui t'a été accordé pour aller commencer à faire des œuvres qui ne sont pas les tiennes, mais qui sont celles de ton frère et de ta sœur. Ce faisant, tu t'en vas dans un mandat pour lequel tu n'as pas été équipé, pour lequel tu n'as pas été préparé, pour lequel tu n'as pas été appelé, et tu t'exposes à la lourdeur et au fardeau de la tâche de façon tout à fait inappropriée. Dieu te donne exactement ce que tu as besoin pour faire exactement la tâche à laquelle il t'a appelé. Mais lorsque tu te voues à des choses auxquelles il ne t'a pas appelé, ben à ce moment-là, tu prends aussi un fardeau sur tes épaules pour lequel tu n'as pas été préparé. Soyons clairs. Certains me disent parfois, ben Dieu m'a pas appelé à nettoyer l'église. Et c'est vrai que lorsqu'on a quelqu'un comme le frère Gilles qui s'occupe du bâtiment de l'église, on est une église bénie. On a plusieurs gens qui nous visitent. J'ai des pasteurs qui ont déjà visité l'église et qui disent, votre équipe de nettoyage, ils ne savent pas que notre équipe de nettoyage, c'est un seul homme, mais ils nous disent, votre équipe de nettoyage est vraiment hors pair. On n'arrive pas à avoir une qualité de nettoyage que vous avez. C'est vrai, on a quelqu'un comme le frère Gilles, donc, qui s'occupe du nettoyage, et je pense, il pourrait me contredire sur la chose, mais je pense effectivement qu'il sent que Dieu lui a demandé de faire ces choses-là. Il a le cœur pour le faire, il a le talent pour le faire, il le fait beaucoup plus rapidement que n'importe qui, il est génial dans son travail. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a quelqu'un qui fait le ménage, mais si je vois un Kleenex, un papier mouchoir au sol, je dois le laisser là en disant « c'est pas mon travail ». Est-ce que ça veut dire que si je vois une chaise qui est déplacée de son endroit, je dois dire « oh, mais ça sera le frère Gilles, c'est pas à moi de faire ce travail-là ». Non, il y a une différence entre le ministère et le service. Le service, c'est faire ce qui a besoin d'être fait dans l'Église et chacun d'entre nous, on le fait. Je ne l'ai pas encore fait cette année, mais régulièrement durant l'hiver, lorsque je vais de bonne heure à l'église le matin et qu'il a neigé, je déneige ici à la maison, puis arrivé à l'église, je prends la pelle et je déneige. Est-ce que je dois me dire, non Florent, tu es pasteur, c'est le frère Gilles qui doit faire ça, ne coupe pas sur son ministère. Non, je sers, je fais ce qui est nécessaire et si ça peut aider le frère Gilles, gloire à Dieu. Mais lorsqu'on parle de l'onction par rapport au ministère, lorsqu'on parle de l'onction par rapport au travail spirituel dans l'œuvre de Dieu, il nous faut aussi connaître quel est le mandat que Dieu nous a donné. Très régulièrement, le frère Léonel, qui est l'administrateur de l'Église, a des décisions à prendre, notamment au niveau des finances, de l'œuvre dans les champs missionnaires. Et très souvent, il me dit, « Pasteur, j'ai peur... » Moi, il m'appelle Florent, là. On est tellement proches. Il me dit, « Florent, j'ai peur d'outrepasser les limites. Alors, si tu vois que j'outrepasse les limites de mon travail, s'il te plaît, avise-moi dis-le-moi pour pas que je le dépasse. Donc, il y a une différence entre le ministère et le service dans l'Église. Nous tous devrions être les premiers à essayer de ramasser les Kleenex dans l'Église, essayer de placer les chaises adéquatement et ranger les choses. Mais lorsqu'on parle du ministère, lorsqu'on parle de l'œuvre spirituelle, il faut savoir effectivement qu'on a été choisi, élu, mais de surcroît mandaté avec des limites dans le travail qui est le nôtre. De surcroît à cela, lorsque l'onction était déversée sur quelqu'un, on lui conférait aussi les pouvoirs qui allaient avec son devoir. Donc, on lui conférait les capacités à faire les choses. Spirituellement, lorsque le Seigneur t'appelle à une œuvre, non seulement te mandate-t-il pour la chose, mais il t'équipe aussi pour la chose. Ça veut donc dire que Dieu ne t'envoie pas à l'aventure en disant, avec les coups qu'il va se prendre en pleine figure, il va finir par apprendre. Le Seigneur t'équipe, le Seigneur te donne les outils nécessaires à l'œuvre pour laquelle il t'appelle. Il te donne l'onction nécessaire. Il te donne assurément ou il façonne assurément ton caractère pour l'œuvre à laquelle il t'appelle. Je ne suis pas aujourd'hui, après un certain nombre d'années dans le service, le même homme que j'étais à l'époque. Je me rappelle une conversation que j'avais avec le pasteur Fontalvo il y a des années, peut-être une dizaine d'années avant que je ne lui succède, et je lui disais, mais moi, cette situation-là me perturbe encore, et on parlait d'un cas dans l'église. Et il me disait, mais voilà, tu vois, Florent, moi, je suis beaucoup plus calme parce que je n'ai pas ton âge. Il dit, si j'avais 30 ans, il serait normal que je réagisse comme toi, mais quand tu auras mon âge, il sera normal que tu réagisses aussi comme moi. Donc oui, l'expérience peut aussi servir dans l'équipement que Dieu nous donne. Et je pense que chacun d'entre nous, peu importe les situations que nous traversons, ça doit servir d'instrument didactique, d'instrument pédagogique pour chacun d'entre nous, pour l'œuvre à laquelle nous aspirons. Trop malheureusement, il y a des gens qui passent par des expériences et qui n'apprennent pas de ces expériences. Voire même, il y a des gens qui oublient l'expérience. Je me rappelle une conversation avec un jeune collègue à l'époque. On était tous deux jeunes et je lui dis, te rappelles-tu les années à travers lesquelles tu as quitté Dieu, à travers lesquelles tu t'es éloigné de Dieu? Et il me regarde en me disant, Florent, tu sais quoi, je sais que c'est arrivé, mais je me rappelle strictement de rien. Et moi, ça m'a saisi ce jour-là parce que, contrairement à lui, je me rappelais exactement pourquoi j'avais quitté Dieu, comment j'avais quitté Dieu, jusqu'où j'étais allé en m'éloignant de Dieu, et je craignais d'oublier tout cela de peur de ne tomber encore une fois dans le même piège de l'ennemi. Donc parfois, effectivement, l'expérience et le vécu font partie de ce processus d'équipement, de ce processus ce processus à travers lequel le Seigneur t'équipe pour son service. Donc, ne résiste pas à l'enseignement que Dieu te donne. Ne résiste pas à la formation que Dieu te donne. Ne résiste pas aux expériences que Dieu te donne. Notamment dans les services, il y a des gens qui commencent avec Dieu et qui disent « Je suis déjà appelé à telle chose et je ne veux pas toucher à autre chose. » Je me rappelle un conseil que quelqu'un m'a donné alors que je débutais dans l'œuvre. Il m'a dit « Florent, je ne voudrais pas que parce que tu sois trop orienté sur une chose, que tu passes à côté d'un appel plus large, que tu sois tellement spécialisé dès ton commencement que tu passes à côté de périodes d'occasion, d'instruction, d'apprentissage. » Alors, ne soyons jamais réfractaires à l'expérience, ne soyons jamais réfractaires à l'enseignement, ne soyons jamais réfractaires au service, parce que tout cela nous pousse vers le mandat, vers l'œuvre et vers le fait d'être le serviteur adéquat pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Donc, choisi, élu, mandaté, équipé, établi. Un autre point important avec l'onction, lorsqu'on déversait l'huile de la corne sur un homme de la famille de Lévi. On savait qu'à partir de ce moment-là, cet homme rentrait dans le service actif en tant que sacrificateur. Lorsque l'onction a été déversée sur David, on a soupesé David, on l'a choisi dans la famille de David, d'Isaïe, on l'a élu au milieu de ses 8 frères. La Bible nous dit qu'il a été mandaté pour être roi. La Bible dit que Dieu a commencé à le former dans la prairie avec ses troupeaux. Et on l'a donc établi. L'onction qui était déversée sur David était une onction qui déclarait, voici, à un moment donné, cet homme va être roi d'Israël. On n'a pas expliqué comment il arriverait au trône, mais on a décrété qu'effectivement, il serait roi. Donc, quand Dieu déverse une onction sur toi, et lorsque le Seigneur t'appelle à son service, il va aussi, à un moment donné, t'établir. Voilà une erreur que plusieurs jeunes gens font, et j'ai fait cette même erreur. J'avais dans la pensée que mon pasteur devait à tout prix dégager le terrain devant moi et dire publiquement, voici la personne que j'établis, voici la personne que Dieu a établie, voici le mandat que Dieu a donné à Florent. J'avais envie qu'il se passe un peu comme dans le cas de Paul et Barnabas, où Dieu, ou Paul et Silas en tout cas, Paul et son compagnon, où à un moment donné dans la réunion des saints, ça se trouve, je pourrais vous le trouver, dans Actes au chapitre 14, si je ne m'abuse. Paul et Barnabas, c'est ça? Non, c'est pas le chapitre 14. Non, le chapitre 13. Paul et Barnabas, c'est ça. Donc, vous pourrez lire le texte dans Actes au chapitre 13, dans l'église d'Antioche, lorsque le Seigneur va dire, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, on aimerait tellement qu'il se passe une telle chose avec une parole qui vienne du ciel. Regarde, peu importe comment le processus va se passer, peu importe le déroulement de ta formation, le déroulement de ta croissance, peu importe comment se passe ta progression au niveau de l'œuvre, à un moment donné, Dieu va t'établir. À un moment donné, Dieu va faire les choses. Et voilà pourquoi on ne doit pas s'effrayer par un pasteur qui pourrait être, comme moi, peut-être un peu plus lent, un peu plus frileux à placer des gens vers l'avant de peur qu'on ne les brûle, de peur qu'ils ne soient pas adéquatement préparés pour tout ça, de peur que le diable se joue de leur côté novice et fasse mal à cette âme, à ce frère, cette sœur qui commence à œuvrer. Donc peut-être que je pourrais être un peu réfractaire, mais même si j'étais trop lent, je ne suis pas trop lent pour freiner la main de Dieu. Je ne suis pas assez puissant pour fermer la main de Dieu ou pour arrêter la main de Dieu. Lorsque Dieu veut placer quelqu'un, même s'il y a un serviteur de Dieu qui s'y oppose, même s'il y aurait un Florent et un pasteur qui seraient lents à faire le processus, Dieu, dans son temps, au moment opportun, place la personne. Et voilà pourquoi il nous faut être humbles, il nous faut être soumis, il nous faut être patient, il nous faut être docile à la voix de Dieu, sachant que c'est lui qui est au contrôle et au moment opportun, il t'établit. Mais assurément, s'il t'appelle, il va aussi t'établir, il va aussi faire en sorte que ta base soit solide pour faire l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Et enfin, l'onction qui était déversée sur quelqu'un, et ça sera notre dernier terme aujourd'hui, fait en sorte que cette personne était reconnue. On savait tous que David avait été oint par Nathan le prophète. La famille entière, les frères, les sœurs de David, le père de David savait que le jeune David, le plus jeune de la famille, qui était oublié ou qu'on voulait oublier dans le champ, avait reçu l'onction du prophète Nathan pour devenir roi d'Israël. Donc, c'était Dieu qui reconnaissait cette personne-là. Un peu l'image du Saint-Esprit, de la colombe qui tombe sur Jésus, qui vient se poser sur Jésus le jour de son baptême. Et on a cette phrase qui émane du ciel, « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, c'est cette reconnaissance de Dieu qui devient publique aux yeux des hommes. Et voilà ce qu'on appelle, dans un langage très contemporain et dans un langage très ecclésiastique, voilà ce qui se passe lorsqu'on ordonne quelqu'un au ministère, lorsqu'on fait l'ordination de quelqu'un au ministère. On vient juste reconnaître publiquement ce que Dieu a déjà fait et ce que Dieu fait déjà à travers cette personne. Donc, lorsqu'on ordonne quelqu'un au ministère, on ne l'ordonne pas pour être ceci ou cela. Voici, là, il est ordonné pour être pasteur, mais il n'est pas ordonné pour être prophète. Il est ordonné pour être évangéliste, mais il n'est pas ordonné pour être enseignant. Lorsqu'on ordonne quelqu'un au ministère, lorsqu'on procède à l'ordination, c'est simplement la reconnaissance des hommes par rapport à l'onction qui a déjà été déversée dans la vie de cette personne et comme quoi cette personne a été mise à part pour le service de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Effectivement, l'Esprit de Dieu vient sur nous. Effectivement, Dieu dépose son Esprit sur nous parce qu'il a des choses à faire pour nous, à faire à travers nous. Donc, Dieu nous choisit. Dieu choisit particulièrement qui tu es. Il t'élit par rapport à d'autres autour de toi. Il décide que pour cette tâche, la personne qui lui est nécessaire, la personne qui accomplira le mieux cette tâche, c'est toi et personne d'autre. Dieu te mandate, donc Dieu te révèle les pourtours de l'œuvre à laquelle il t'appelle. Dieu t'équipe, que ce soit avec l'expérience, avec l'enseignement, avec l'exemple que tu peux avoir d'un aîné dans la foi. Dieu puis t'établit, donc il te pose quelque part, il t'enracine quelque part pour que tu puisses effectivement déverser les bénédictions qui viennent avec l'appel que tu as sur ta vie. Et puis, éventuellement, il y a aussi une reconnaissance. Donc, Dieu reconnaît, Dieu fait savoir aux hommes et aux femmes que tu sers, quel est le mandat, quel est l'appel que Dieu t'a donné. Alors, j'espère que tu es content que parmi toute l'histoire de l'humanité, Dieu t'a choisi à toi et à toi précisément pour une œuvre. Alors, je prie que tu ne passes pas à côté de cette œuvre, que tu ne passes pas à côté de ce travail que Dieu a pour toi. Alors, prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce matin, pour ta parole, pour ton instruction. Merci, Seigneur, de ce que tu nous parles encore ce matin. Et en ce début d'année de décision, de changement, d'engagement, tu nous parles aussi, Seigneur, sur l'onction. Mais sur l'onction par rapport au service. Alors, je prie, Seigneur, qu'effectivement, ma sœur ne passe pas à côté de l'appel que tu as lancé sur sa vie. Je prie, Seigneur, que mon frère ne passe pas à côté du mandat que tu veux lui accorder de toute éternité, Seigneur, pour œuvrer dans l'Église, dans ton corps, Seigneur. Alors, merci de leur parler, merci de les façonner, merci, Seigneur, de les préparer, merci, Seigneur, de leur donner les expériences nécessaires, merci de garder un cœur humble, un cœur docile, un cœur d'étudiant à tes pieds, d'étudiant de ta parole et d'étudiant de ta volonté. Et merci, Seigneur, de leur donner tout ce qui est nécessaire pour pleinement accomplir et faire l'œuvre à laquelle, Seigneur, tu les as destinés. J'appelle ta bénédiction sur chacun d'entre eux. J'appelle ta présence sur leur vie. J'appelle, Seigneur, une communion intime avec toi, Seigneur, dans leur être, dans leur âme et dans leur esprit. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, laissez-moi juste saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous ce matin. Je remonte un peu pour être sûr de n'oublier personne. Voilà. Donc, la dernière personne qu'on avait saluée, c'était la sœur Denise Gaudreau. Bienvenue parmi nous encore une fois. Bonjour à Farley, à sa maman Marie-André. Bonjour à Didier. Bonjour à Maggie. Bonjour à la sœur Nora. Bonjour à Louise et à Michel. Bonjour à Marie-Marthe, à Georgette, à Andrise. Bonjour à la sœur Teresa, bonjour à Joanne Salvant, Jérôme, bonjour à la sœur Samek, bonjour à Lucie, bonjour à Marie-Huguette, hello Nadia, Happy to have you with us this morning. We're praying for Mark. Hopefully he's doing better. Que Dieu te bénisse. Nadia qui est à Toronto. Bonjour à Ramon. Bonjour à Diana, son époux, à sa famille. Bonjour à la sœur Nancy. Bonjour à Nadia. Bonjour à Linda. Bonjour à Consuelo et à Jean. Bonjour à Yann, Félicité et à la petite famille. Bonjour à Soraya, Benjamin et les garçons. Bonjour à Irlande. Bonjour à Gérard et à Denise de Valmorin. Et voilà, c'était tout pour ce matin. Donc, on se retrouve demain matin, mercredi. Et demain, on va étudier pour porter de bonnes nouvelles. Donc, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. C'est ce qu'on va étudier demain matin, mercredi 13 janvier 2021. Sur ce, je vous souhaite un mardi 12 janvier 2021 rempli de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu, qu'il puisse vous accompagner, qu'il puisse vous bénir tout au long de cette journée. C'était encore une joie et un privilège d'être avec vous ce matin. On se retrouve donc demain matin, même heure, même poste, pour la suite de notre étude. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.